Tôt ou tard dans la vie, chacun d'entre nous se trouve devant un mur, confronté à une situation qui le dépasse et où il ne sait que faire. La circonstance où la menace peut être passagère ou permanente. Dans ces moments douloureux, on éprouve un sentiment de sauve-qui-peut, et les réactions sont très variées. Ainsi, les gens religieux implorent un saint ou leur dieu et s'adonnent à un rite comme en faire un vœu ou allumer des bougies dans une église. D'autres cherchent conseil auprès d'un sage ou même invoquent les morts. Il y a environ 6000 ans, à l'époque des patriarches, vivait Job, un homme paisible et prospère qui, suite à une série de malheurs, se retrouve au fond du trou. Mais alors vraiment, tout au fond. Il appelle le Tout-Puissant à son aide avec insistance, mais sans résultat. Alors, il lance un ultime cri au secours avant de s'éteindre. C'est son chant du cygne, en quelque sorte, du moins, c'est ce qu'il croit. Je continue à lire dans le chapitre 31 du livre de Job. « Ah, si j'avais quelqu'un qui veuille m'écouter, voilà mon dernier mot. Que le Dieu Tout-Puissant me donne sa réponse. Quant à l'acte d'accusation rédigé par mon adversaire, je le mettrai sur mon épaule et je m'en ceindrai le front, comme d'un diadème. Et je lui rendrai compte de chacun de mes actes. J'avancerai vers lui aussi digne qu'un prince. » Job, chapitre 31, les versets 35 à 37. Job lance un défi à Dieu, le semant de s'expliquer. En déclarant « Voilà mon dernier mot », il fait à nouveau une déclaration d'innocence. Il persiste et signe, et engage son nom et sa parole d'honneur. À cette époque, les gens portent parfois des inscriptions qu'ils considèrent importantes sur l'épaule afin que tout le monde puisse les lire. De nos jours, c'est un peu pareil. À cause du terrorisme rampant, on est constamment tenu de montrer patte blanche. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en 2004, j'ai été surpris de voir les 11 000 athlètes défiler, pour la première fois, je crois, en portant une petite carte d'identité autour du cou. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, tout un chacun doit toujours être en mesure de prouver qui il est et ce qu'il fait là. C'est dorénavant devenu une exigence quasi universelle. Job n'a pas décliné son identité, mais il est tellement convaincu de son intégrité qu'il est prêt à produire, sur son vêtement et au regard de tous, les charges qui pourraient être relevées contre lui. Ferme dans ses convictions et fier comme un prince, il est disposé à réfuter toute accusation, même celle que le Tout-Puissant lui-même porterait contre lui. Quel aplomb, ou plutôt, quel culot ! Dieu lui reprochera d'ailleurs cette attitude fanfaron et vaniteuse. Je finis maintenant de lire le chapitre 31 du livre de Job. « Si mes terres m'ont accusé, si j'ai fait pleurer leurs sillons, si j'ai joui de leurs produits sans les avoir payés, et si j'ai opprimé ceux qui s'en occupaient, alors qu'au lieu de blé, il y pousse des ronces et des orties à la place de l'orge. C'est ici que finissent les paroles de Job, chapitre 31, versets 38 à 40. Une nouvelle fois, le pauvre Job affirme n'avoir profité de personne et il a été droit dans les transactions d'acquisition de ses terres. Si celle-ci avait une voix, elle acquiescerait. Il termine ses discours à bout de force et désespéré. Il a tout de même lancé une dernière provocation au Tout-Puissant, essayant par là de le forcer à sortir de son silence. Mais comme il va bientôt l'apprendre, il n'a aucunement le droit d'imposer quoi que ce soit à l'Éternel. Dieu n'est évidemment pas obligé de relever ce défi, et il est entièrement libre de faire comme bon lui semble avec toutes ses créatures, y compris Job. L'Éternel ne doit rien à personne et aucune explication sur quoi que ce soit à quiconque. En conséquence, il ne va pas rendre à Job, du moins pas tout de suite, car nous ne sommes pas encore arrivés au dénouement de l'histoire. Quant aux trois amis que Job a mis KO, ils s'avouent vaincus. N'ayant plus rien à dire, ils restent bouche cousue, et c'est très bien ainsi. À partir du chapitre 32, une surprise nous attend. Une cinquième personne qui, jusqu'à présent, demeurait dans l'ombre entre dans l'arène. Il s'agit d'un dénommé Eliou. Il profite du vide occasionné par le silence des trois amis, ainsi que de Job, qui n'a plus de salive, pour prendre la parole. Il va manifester sa colère contre Job à cause de son attitude de propre juste, mais il est aussi sensible à sa souffrance, ce qui contraste avec les bavardages inutiles et agressifs des trois compagnons. Eliou va donner une série de quatre discours qui s'étendent sur 6 chapitres. Il constitue un pont entre les longs monologues, questionnements et ardents soupirs de Job, et la réponse tant attendue du Tout-Puissant. Eliou s'arrête de temps à autre pour reprendre son souffle et pour ne pas donner l'impression de faire de l'obstruction. Mais quand il voit que personne ne prend la parole, lui la reprend de plus belle. Les quatre premiers versets de ce chapitre 32 sont en prose parce qu'ils servent d'introduction. Le reste est écrit sous forme poétique. Je commence à lire. Comme Job persistait à se considérer innocent, ces trois hommes cessèrent de lui répondre. Job chapitre 32, verset 1er. Après avoir tiré toutes leurs cartouches et fait feu de tout bois, les trois amis sont à court d'arguments. Ils ont pourtant tout essayé. Ils ont fait appel à la tradition et à l'expérience, aux lois cause-effet, mais rien n'a convaincu Job. Vexés dans leur amour-propre, ils ont lancé une offensive tout azimut avec des propos durs et incisifs. Alors Job s'est rebiffé, devenant suffisant et hautain. Replié sur la défensive, il s'est ancré dans sa position de propre juste et il semble bien que rien ni personne ne l'en délogera. Le combat fut rude. La lutte sans merci pendant que les deux camps se lancent à la figure tout leur savoir. Le conflit a duré des jours et des jours parce que personne ne voulait céder et se mettre à l'écoute de l'autre. Ces trois soi-disant amis nous ont certes fait part de vérités étonnantes concernant Dieu et la création, mais elles sont hors sujet. Alors que Job est en proie à de terribles souffrances, ils ne lui ont pas accordé la moindre compassion et ne l'ont pas aidé le moins du monde face à son désarroi et à la tragédie qu'il est en train de vivre. Au contraire, ils ont jeté de l'huile sur le feu de son agonie. Alors qu'un silence de mort plane sur le champ de bataille, Eliou monte au front. Lui non plus n'a pas de réponse à donner au problème de Job, mais il s'en rapproche. À cette discussion bloquée, il apporte des idées fraîches qui anticipent et préparent l'intervention de l'Éternel. Les trois amis ont affirmé « Tu souffres à cause de tes fautes secrètes ». Mais Eliou, qui a un très grand respect pour Dieu et une conception juste du péché, va dire à Job, « La souffrance peut servir à purifier l'homme des germes de péché renfermés dans son cœur. Mais toi, elle t'a rendu arrogant, et en cela, tu pèches contre Dieu. » Je continue le texte. « Alors Eliou, fils de Barakel, lui-même descendant de Bouze, et appartenant au groupe familial de Ram, fut pris d'une grande indignation. Il se mit en colère contre Job parce que celui-ci se disait plus juste que Dieu. Il était aussi en colère contre ses trois amis parce qu'ils n'avaient pas trouvé comment lui répondre et qu'ils avaient ainsi condamné Job. Job, chapitre 32, les versets 2 et 3. Le texte hébreu dit « Ils avaient ainsi condamné Dieu. » Mais pour éviter une affirmation insolente, les copistes juifs ont remplacé Dieu par Job, ce qu'ils indiquent dans la marge. L'identité d'Eliou est intéressante. Nahor, le frère d'Abraham, a eu 8 fils. Le premier, Ourtz, a donné son nom à la région où habite Job, et le deuxième, Bouze, est un ancêtre d'Eliou. Genèse chapitre 22, verset 21. Eliou s'indigne contre Job et les trois amis et sa colère est mentionnée 4 fois dans l'introduction de ses 4 discours. en accusant l'Éternel d'injustice. Job passe un jugement qui élève au-dessus de Dieu. C'est cette attitude arrogante qui révolte Eliou. Quant aux trois amis, au lieu d'encourager Job et l'aider à répondre à ses interrogations, ils ont décidé, sans la moindre preuve, de le condamner sans appel. Alors, poussé à bout, ce dernier s'est retranché sur lui-même, et un ami en cause de la justice de Dieu. Eliou considère donc ces quatre hommes tout aussi coupables les uns que les autres. Dans cette histoire, il y a décidément beaucoup de colère, car il faut aussi prendre en compte que les trois amis sont furieux contre Job, qui est furieux contre eux et aussi fâché contre Dieu qu'il croit irrité contre lui. Je continue. Eliou avait attendu avant de s'adresser à Job, parce que les trois amis étaient plus âgés que lui. Mais lorsque Eliou s'aperçut qu'il n'avait plus rien à lui répondre, il se mit en colère. Job, chapitre 32, les versets 4 et 5. Eliou a écouté avec beaucoup de patience toutes les palabres qui n'ont pas fait avancer d'un poil la problématique de l'histoire. Il est fâché parce que les trois compagnons n'ont rien trouvé de mieux à faire que de multiplier les attaques contre le pauvre Job qu'ils ont d'office étiqueté de pécheur impénitent. Je continue. Eliou, fils de Barakel, de Bouz, prit donc la parole et dit « Moi je suis jeune. Vous, vous êtes âgé. C'est pourquoi j'ai eu peur. Oui, j'ai craint de vous exposer ce que je sais. Je me disais, ceux qui ont un âge avancé sauront parler. L'expérience de l'âge fera connaître la sagesse. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, c'est l'inspiration du Tout-Puissant qui lui donne intelligence. Un grand nombre d'années ne rend pas forcément plus sage, et ce ne sont pas les vieillards qui comprennent ce qui est juste. » Job, chapitre 32, les versets 6 à 9. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le premier souci d'Eliou est de s'assurer qu'il sera écouté. Il doit donc justifier son intervention, surtout qu'elle sera longue et musclée. À cette époque, la sagesse est associée aux cheveux blancs, c'est-à-dire à l'expérience de la vie. Mais Eliou défend l'idée que c'est surtout Dieu, plus que les années, qui donne l'intelligence et permet de comprendre une situation difficile, ainsi que d'y apporter des solutions appropriées. Dans l'Ancien Testament, certains croyants recevaient le Saint-Esprit qui leur donnait un don surnaturel comme la possibilité de parler de la part de Dieu ou d'accomplir une certaine tâche. Je continue. « C'est pourquoi je te prie, écoute-moi aussi et j'exposerai mon savoir. Jusqu'ici, j'attendais, j'écoutais vos discours et vos raisonnements pour vous laisser critiquer ces propos. Avec toute mon attention, j'ai suivi vos paroles. » Job chapitre 32, les versets 10 et 11. Parce que très patient, il a prêté la plus grande attention à tous les discours. Eliou va demander à 8 reprises qu'on l'écoute à son tour. Je continue. Mais aucun de vous trois n'a pu convaincre Job. Aucun de vous n'a réfuté ses dires. Surtout, ne dites pas, nous ne savons ce qu'il en est. Dieu seul, et non pas l'homme, peut triompher de lui. Job, chapitre 32, les versets 12 et 13. Les trois amis ont lamentablement failli d'une part dans leur tâche de soutien moral au pauvre Job et ensuite en émettant des accusations sans fondement. Les sages ne sont pas parvenus à percer la ligne de défense de Job, mais qu'ils n'en tirent pas la conclusion qu'il est invincible et qu'il peut faire face victorieusement à n'importe quelle attaque humaine. N'ayant pu vaincre Job, que les trois amis ne disent pas « Nous l'avons trouvé trop sage pour nous, c'est Dieu et non pas l'homme qui pourra révéler son péché au grand jour. » Par ailleurs, Eliou est troublé par Job parce qu'il fait le beau. Il a certes été blessé par Satan et ses trois amis, mais il n'est absolument pas contrit. Il est même animé d'un sentiment de triomphe parce qu'il a vaincu tous les arguments de ses adversaires et il reste seul, debout, sur le champ de bataille. Mais il va devoir affronter le déplaisir de Dieu à cause de son arrogance. Les vaniteux et les regards hautains, Dieu les brise. J'ai lu une histoire amusante concernant un grand évangéliste anglais du nom de John Wesley. Un jour, il se trouva sur une petite passerelle nez à nez avec quelqu'un qui le haïssait à cause de ses prédications. Voyant à qui il avait affaire, cet homme se redressa de toute sa hauteur et dit « Moi, je ne cède jamais devant un âne. » Après un instant d'hésitation, Wesley lui répondit « Moi, toujours. » Et il fit demi-tour pour le laisser passer. Pour ce qui est d'un esprit contrit, c'est le pasteur écossais Horace Bonar qui fait figure d'exemple. Il a écrit « J'ai confessé à Dieu mon orgueil, ma froideur et mon indifférence spirituelle. Ensuite, je me suis repenti de ma piètre pénitence. » La véritable contrition, c'est quand je me rends compte que devant le Créateur, il n'y a rien de bon en moi et que je suis tellement dépravé que j'arrive même à m'enorgueillir de ma repentance et de toutes mes autres formes de religiosité. Je continue le texte. « Pourtant, ce n'est pas contre moi que Job a dirigé tous ses propos. Je ne lui répondrai donc pas avec des mots comme les vôtres. » Job chapitre 32, verset 14. Étant donné que Job n'a pas adressé ses discours à Eliou, ce dernier ne lui a pas répondu, et cela ne veut pas dire que personne ne peut le réfuter. Eliou annonce la couleur, le ton de son intervention. N'étant pas sur la défensive comme les trois amis, il ne va pas être agressif comme eux, et il va utiliser une argumentation différente. Je finis le chapitre 32 à compressant. Les voilà tous déconcertés. Ils n'ont plus rien à dire, les mots leur font défaut. J'attendrai vainement, ils ne parleront plus. Je veux donc, moi aussi, répandre pour ma part, exposer mon savoir, car j'ai beaucoup d'idées en moi et mon esprit me presse de parler. Voici, dans mon être intérieur, c'est comme un vin nouveau qui serait sous pression, comme des outres neuves sur le point d'éclater. Je veux être impartial et ne flatter personne. Job, chapitre 32, versets 15 à 22. Se détournant avec mépris de ces lâches et inhabiles combattants qui ont renoncé à la lutte, Eliou va parler et parler encore. Autant que les quatre derniers discours de Job mis bout à bout et sa verbosité va dépasser les plus bavards des trois amis. Il va manifester de la franchise, l'ardeur bouillonnante et le manque de retenue de sa jeunesse. Seulement, il prévient que sa crainte de Dieu l'empêche de craindre les hommes et ce qu'il va dire ne sera pas du goût de chacun. Dans le chapitre 33, Eliou s'adresse directement à Job. Et il est le seul qui l'appelle par son nom, ce qu'il fera trois fois. Il va également le mentionner indirectement cette fois tout au long de ses discours. Peut-être est-il de sa famille. Par contraste, les trois amis étaient très détachés et parlaient à Job comme s'il avait parlé à quelqu'un d'autre absent. Je commence à lire le chapitre 33. « Maintenant, Job, écoute ce que j'ai à te dire et prête bien l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche et ma langue s'exprime. Mes mots proviennent d'un cœur sincère, ma bouche exposera la science en toute vérité. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé, c'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. » Job chapitre 33, les versets 1 à 4. Eliou est d'un caractère entier. Il est tout à fait sincère, il ne va pas faire usage de faux fuyants comme les trois amis, mais a bien l'intention de prendre le taureau par les cornes. Il adresse à Job la même requête que ce dernier avait lui-même fait à ses trois amis, de l'écouter. Eliou a une bonne disposition d'esprit. Il va parler du fond de son cœur et il est convaincu qu'il a quelque chose à apporter de la part de Dieu. À ce sujet, certains possèdent le don de communiquer le conseil de Dieu. Mais quand on enseigne les Écritures, il faut être très prudent et humble parce que ce qu'écrivent les auteurs sacrés n'est pas toujours clair comme de l'eau de roche. Dieu n'a pas complètement levé le voile sur bon nombre de sujets qui restent encore, pour nous, mystérieux. Par contre, on peut être très dogmatique sur certains enseignements. Par exemple, il ne fait pas le moindre doute que Jésus est le Fils de Dieu. la seconde personne de la Trinité qui est née d'une vierge, qui a accompli beaucoup de miracles, qui a offert sa vie en sacrifice pour les péchés des hommes, qui est ressuscité des morts, puis monté aux cieux, et il s'est assis à la droite du Père, et un jour, il reviendra pour établir son royaume sur la terre. Je continue le texte. Si tu peux, réponds-moi, prends position et fais-moi face, car voici, devant Dieu, je suis semblable à toi. J'étais comme toi, façonné dans l'argile. Ainsi, tu ne trembleras pas de frayeur devant moi, et je ne t'écraserai pas. Job chapitre 33, les versets 5 à 7. La terminologie militaire utilisée par Éliou signifie qu'il est prêt à affronter Job en combat singulier. Cependant, malgré son flot de paroles interminables, il ne va pas l'écraser, et c'est vrai. Il ne sera pas présomptueux comme les trois amis. D'autre part, Job a plus d'une fois exprimé sa crainte de ne pouvoir répondre à Dieu s'il lui apparaissait dans sa gloire. Mais face à Éliou, un simple homme, il n'a rien à redouter. Je continue. « Tu as dit devant moi, et j'ai bien entendu le son de tes paroles. Je suis pur, sans péché, je suis net et exempt de faute. Cependant, Dieu invente contre toi des prétextes, et il me considère comme son ennemi. Il a mis mes pieds dans des fers, et il surveille tous mes pas. » Job 33, les versets 8 à 11. Éliou pose le problème comme Job l'a formulé. Sa stratégie consiste à citer à peu près les paroles que Job a dites pour ensuite réfuter les idées qu'il juge fausses ou exagérées. Je continue. « En cela, tu n'as pas raison. Laisse-moi te le dire, car Dieu est bien plus grand que l'homme. Pourquoi lui fais-tu un procès? Il n'a de compte à rendre pour aucun de ses actes. » Job chapitre 33, les versets 12 et 13. Parce qu'il souffre alors qu'il est innocent de graves péchés, Job accuse le Tout-Puissant d'injustice. Éliou lui rétorque qu'une telle accusation portée contre le Tout-Puissant, dont la grandeur dépasse infiniment la capacité de compréhension de l'homme, n'a aucun sens. Par ailleurs, nulle créature ne peut lui intenter un procès parce que, qu'en tant que Dieu, il a parfaitement le droit de faire comme bon lui semble sans avoir à justifier ses actes. En tant que simple être humain, je ne suis pas en mesure d'évaluer les actions de Dieu ni comment il gère son univers. On entend parfois quelqu'un demander « Pourquoi Dieu permet-il ceci ou cela ?» Moi, je l'ignore. Mais ce que je sais et qu'il me demande de mettre ma main dans la sienne est de lui faire totalement confiance.